Beur FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda.
Bonjour, bienvenue, c'est Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Vous le savez, hein, chaque dimanche, on se retrouve entre 11h et midi pour parler de tout ce qui se regarde. J'étais bien seule pendant deux semaines, mais ça y est, elle est de retour. Linda, rebonjour, enfin bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, ouais, je suis ravie d'être là, je suis contente de te revoir. Tu m'avais manqué, vous m'aviez manqué aussi, et je suis ravie de retrouver Beur FM.
Eh ben voilà, on est donc, tu seras avec nous de nouveau.
Eh ouais, tu vas devoir supporter encore un bon coup.
Oui, chaque dimanche, entre 11h et midi, chacun sa croix.
Et voilà.
Allez, le programme, vous le connaissez. On commence toujours par un tour des sorties ciné. Pour commencer, avec des extraterrestres, un procès pour une chèvre et un merveilleux monde sous-marin. Vers 11h30, ce sera un point sur le box-office et les actus que tu nous as sélectionnés, Linda.
Exactement, on va parler de la série Ourika. Et puis on va aussi parler du scénar, rien à voir avec le cinéma. Et on va finir avec l'Académie des Oscars.
Ça, ce sera tout à l'heure aux alentours de 11h30. Mais avant tout cela, il est temps de vous parler de notre film de la semaine. Direction la Galilée et plus précisément le lac de Tibériade avec le documentaire Bye Bye Tibériade. Cette région est le berceau de la famille de l'actrice Iyam Abbas. De l'exode de ses arrière-grands-parents jusqu'au départ de sa mère en Europe pour vivre sa vie, Lina Swalem, la fille d'Iyam Abbas, raconte l'histoire de sa famille, forcément marquée par la grande histoire de cette région du monde toujours incertaine. Et l'actualité nous le rappelle d'autant plus en ce moment. Linda, je te laisse présenter notre invitée de la semaine.
Elle est réalisatrice et comédienne. Son premier long métrage, Leur Algérie, est sorti en 2021 et a remporté de nombreux prix. Son deuxième long métrage documentaire Bye Bye Tibériade, dont on va parler aujourd'hui, a été sélectionné dans plusieurs festivals et a été choisi pour représenter la Palestine aux Oscars de 2024. Lina Swalem, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes la bienvenue sur Beur FM. On est ravis de vous avoir donc en duplex depuis Toulouse pour ce film Bye Bye Tibériade qui sort donc mercredi prochain. On a une coutume dans Studio B, c'est de proposer à nos invités de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, et on vous la posera d'ici la fin de l'émission. Et une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, celle-là, on ne vous la posera pas. Mais pour qu'on ne vous la pose pas, il faut nous la dire. Est-ce que vous avez préparé vos deux questions?
Alors, la question que j'ai envie que vous me posiez, c'est comment va votre grand-mère Aïcha?
D'accord, et bien celle-là, on la note, Linda.
C'est noté.
Elle sera posée, et la question que vous ne voulez pas qu'on vous pose du coup?
Celle que je veux pas qu'on me pose, c'est est-ce que tu te sens plus algérienne, palestinienne ou française?
Moi, bon, je l'avais pas prévu celle-là de toute façon.
Mais elle serait difficile, voilà. J'avoue. Eh bien, ça tombe bien, on la posera pas. C'est bon, on a tout, on a les deux questions. Vous avez le programme. Vous écoutez donc Beur FM, nous sommes le dimanche 18 février. Bienvenue dans le 127e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et on va commencer par mon coup de cœur de la semaine qui est aussi un gros point d'interrogation.
Eh oui.
J'avais pas vu un ovni.
Un quoi?
Un ovni.
Oui, c'est un peu un ovni, le film L'Empire, film de Bruno Dumont avec Lina Koudry, avec également Camille Cotin, Anna Maria Vortolomei et Fabrice Lucchini. C'est le genre de film qui peut autant être une excellente surprise qu'un gros navet. Alors je sais pas, on verra. C'est en même temps une comédie, un drame et un film de science-fiction.
Celui qui touche un mot dit, il y a deux cas à sa gueule.
Comme vous avez sûrement reconnu l'accent, le film se passe dans le Schnorr où des extraterrestres débarquent de deux planètes. La planète du bien et la planète du mal.
Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière.
Alors Linda, je te vois inquiète, mais rassure-toi.
La gendarmerie sont de coups.
Mais les humains, Johnny, sont nuls.
Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale.
Bon, pas sûr que ce soit vraiment sur eux qu'on puisse compter. Du coup, c'est donc une grande bataille qui va arriver.
Les forces adverses sont redoutables.
C'est quoi ça?
C'est une belle bande de losers.
C'est peu de le dire.
Ils vont s'en prendre plein la gueule.
L'entreprise est vouée à l'échec. À la bataille!
Le film qui a été sélectionné au festival de Berlin se veut un peu un Star Wars à la française avec des vaisseaux et des sabres laser. Le cinéma de Bruno Dumont est un cinéma souvent drôle, décalé, absurde parfois. Il y a quand même toujours des messages dans le fond. Dans l'Empire, on nous promet notamment de parler de notions de bien et de mal, de matériel et d'immatériel, de violence, d'infini, de nature ou encore d'absolu. Tout un programme. Moi, il me donne très envie d'aller le voir. Ça s'appelle L'Empire et ça sort donc ce mercredi.
Ça m'étonne pas, c'est tout à fait ton style. D'accord. On continue avec l'échec. Une comédie de Fred Cavaillé avec Danny Boone et Jérôme Commander.
On est dans un tout autre style. Ces deux acteurs sont dans le rôle d'un avocat et d'un procureur du XVIIe siècle. Bande annonce du film.
Je cherche un bon avocat. C'est pour défendre une innocente. Elle s'appelle Josette.
De quoi la question?
De meurtre.
Quel âge a-t-elle?
11 ans.
Une enfant de 11 ans accusée à tort, c'est imperdable. L'acquittement sera une formalité.
Faites entrer l'accusé.
Non mais je rêve, ils l'ont mise dans une cage, pauvre enfant.
On m'a engagé pour défendre une chèvre.
Une chèvre?
Oui, majesté, une chèvre. Ben.
Les autres avaient dit?
Bien sûr, faudrait être un âne pour accepter de défendre une chèvre.
Pour moi, c'est plus qu'une chèvre. C'est ma meilleure amie. C'est ma sœur, ma confidente.
Oh bah oui, allons-y. Ma mère aussi, pendant qu'on est.
Au début du film est affiché d'après une histoire vraie, ou presque, car en effet, entre 1610 et 1760, figurez-vous qu'on pouvait en France faire des procès aux animaux dans un vrai tribunal avec des vrais avocats et des vrais jurés, et les mêmes sentences que les humains. Donc il y a des animaux qui ont été condamnés à des trucs pas très sympas en plus.
Ouais, c'est pour défendre ça, c'est...
Ils avaient des avocats. Hein, ils avaient des avocats.
C'était des chèvres aussi.
Bizarre, mais c'était la loi en tout cas, pendant 150 ans quand même, hein, ça a duré longtemps. C'est donc tourné en comédie dans le film Les Chèvres qui sort ce mercredi.
Enfin, en ces temps de vacances scolaires, il y a un film, donc c'est plutôt un dessin animé pour les enfants, Le Royaume des Abysses.
Exactement, film d'animation, l'histoire de Sheng Xiu, une petite fille de 10 ans qui est en croisière avec sa famille quand elle se fait soudain aspirer dans les profondeurs de l'océan. Elle va y découvrir un monde sous-marin, le Royaume des Abysses, un monde merveilleux où elle va notamment rencontrer un capitaine qui dirige un restaurant. Ça sort aussi ce mercredi. Mais là, il est temps de parler du film qui nous accompagne durant tout ce dimanche dans ce Studio B. C'est Bye Bye Tiberiade qui sort aussi ce mercredi.
Studio B, l'interview.
Et pour cela, en duplex de Toulouse, nous accueillons Lina Swalem. Rebonjour, Lina Swalem. On va vous laisser faire le pitch du film. Bye Bye Tiberiade, si vous devez le résumer en quelques secondes, pour vous, c'est quoi?
Alors, c'est un film sur quatre générations de femmes de ma famille palestinienne qui ont réussi à transmettre leur histoire malgré les déplacements et l'exil. Et le personnage principal est celui de ma mère, Yam Abbas, qui a quitté son village natal palestinien il y a 30 ans pour devenir comédienne. Et je repars avec elle sur les traces de son histoire et de celle des femmes de ma famille.
Alors, vous êtes la fille de Liam Abbas et de Zinedine Soualem. Comment est-ce qu'on fait pour grandir? Comment on se construit dans une famille d'acteurs, réalisateurs? Je crois même que votre sœur aussi est actrice.
Oui, ma sœur est comédienne. Bah, mes deux parents sont comédiens et j'ai grandi avec une présence très forte du spectacle vivant et du cinéma à la maison, puisque mes parents, avant d'être comédiens de cinéma, ont fait beaucoup de théâtre. D'accord. Et autant ma mère a beaucoup tourné dans des films dans le monde arabe, donc j'étais aussi très connectée à la scène cinématographique de la région Maghreb et Moyen-Orient. Donc pour moi c'était quelque chose de très riche, puisque j'avais accès à un imaginaire très large qui me permettait aussi de me connecter à des choses qui allaient au-delà du lieu où j'étais née.
C'était déjà inné, on va dire, quand vous étiez enfant, vous saviez déjà que c'est ce que vous vouliez faire, suivre un peu la trace aussi de vos parents?
Non, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout. J'étais très bonne à l'école et je voulais faire quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. J'avais pas l'impression que j'avais la fibre artistique. Je pense que j'étais un peu impressionnée par le parcours de mes parents et j'avais pas l'impression de pouvoir apporter quelque chose de mieux ou de nouveau à ce qu'ils avaient réussi à accomplir, parce qu'ils sont tous les deux venus de familles qui n'étaient pas du tout dans le domaine de l'art. Donc, ils se sont plongés dans un monde qui ne leur était pas destiné au départ, et ils avaient réussi à s'épanouir dans ce monde-là. Donc, j'étais assez fascinée par leur parcours individuel. Et moi, je me destinais plutôt à quelque chose de plus académique. Je voulais faire, j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Je voulais faire du journalisme. Ouais. Voilà. Ou de la diplomatie culturelle. Je pense que j'avais envie de trouver ma voie pour aussi raconter des histoires dans lesquelles j'ai baigné, qui sont les histoires à la fois de ma famille algérienne immigrée en France et à la fois de ma famille palestinienne. Et en fait, j'avais besoin de passer par plusieurs tentatives d'autre chose avant de comprendre que finalement, comme le cinéma m'avait beaucoup nourri, en fait, j'avais besoin de me réemparer du cinéma, mais à ma façon, disons.
Votre premier long métrage, L'heure Algérie, retrace un peu la vie de vos grands-parents paternels algériens. Est-ce que à ce moment-là, quand vous avez tourné ce premier long métrage, vous aviez déjà en tête de réaliser par la suite ce docu que vous sortez actuellement sur vos origines palestiniennes?
En fait, pour moi, Bye Bye Tiberiade est vraiment une continuation de L'heure Algérie. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'aurais pu faire ce deuxième film si je n'avais pas fait le premier. L'heure Algérie était vraiment nécessaire et est vital à faire au moment où je l'ai fait. Et c'était mon premier acte aussi de cinéma, puisque j'avais jamais rien fait avant. Donc j'ai tout appris en faisant leur Algérie, à la fois à comment tenir une caméra, comment faire des cadres, comment monter, comment réfléchir à la narration, comment filmer aussi des personnes du réel, comment transformer le réel aussi pour y apporter de la poésie et transmettre une histoire au-delà de nous. Et donc c'est en m'emparant de ce que j'ai appris en faisant leur Algérie que j'ai pu faire Bye Bye Tibériade. Je pense que j'avais besoin de passer par l'un pour arriver à l'autre.
Comment est-ce que vous avez annoncé à votre mère votre projet de tourner ce docu sur sa vie en Palestine et comment elle l'a pris surtout ?
En fait, au départ, j'ai commencé par filmer ma grand-mère, donc il n'y avait pas vraiment d'effet d'annonce à ma mère en lui disant « voilà, je vais faire ci ». Naturellement, j'ai commencé à filmer ma grand-mère maternelle palestinienne. Puis ensuite, j'ai dit à ma mère que j'avais envie de la filmer pour lui poser quelques questions, mais au départ, ce n'était pas encore clair pour moi comment le film allait se construire. Je savais que je voulais raconter l'histoire des femmes de ma famille et retisser un peu le fil de la transmission, mais je ne savais pas encore ce que je voulais raconter du parcours de ma mère. Mais pour elle, ce qui n'était pas facile, c'est de faire face à une caméra documentaire, puisqu'elle est comédienne de cinéma, donc elle a l'habitude de s'exprimer, d'exprimer ses émotions à travers l'histoire d'autres personnages et de prêter ses émotions à d'autres histoires. Et du coup, de se retrouver face à sa fille et une caméra un peu de vérité, c'était pas évident. Donc on a mis un petit temps aussi à trouver notre équilibre dans cet échange.
On sent qu'il y a plusieurs séquences où vous lui parlez, vous intervenez dans le documentaire, vous avez gardé les séquences où vous lui demandez de prendre telle position, retourne-toi plus vers la caméra, ou ce genre de choses. C'est une étape que vous avez choisie au montage ou c'était choisi dès le début ?
Non, mais ça, c'était le naturel de la situation qui m'amenait parfois à intervenir dans la scène, puisque en fait, le film, c'est à la fois la transmission de mère à fille entre ma mère et moi, et aussi entre sa mère et elle, transmission de femme à femme. Donc, moi, j'ai une place aussi dans le film, même si je suis derrière la caméra, j'ai une place à travers ma voix. Et donc, parfois, dans les scènes que je filme, j'interviens et j'échange avec les personnages tout en filmant, puisque ça fait partie aussi de la transmission. Donc c'était pas des choses qui étaient trop réfléchies en amont. Et après, c'est au montage, je décidais de les garder quand c'était important pour la scène et ce que ça racontait de la scène pour rester dans l'authenticité la plus complète et dans la vérité du moment que j'avais capturé.
On ressent vraiment un côté quand même assez pudique chez votre mère quand elle parle de ses émotions, de beaucoup de choses. Est-ce que ça a été dur de la faire parler pour vous ?
En fait, ce qui a été dur, c'est de la mettre à l'aise face à cette caméra, puisque c'était pas facile pour elle de revenir sur certains moments de son passé qu'elle avait un peu laissé derrière elle. Et en même temps, ma mère n'a jamais dit non, elle n'a jamais refusé. Elle voulait faire partie de ce film. Elle voulait continuer à transmettre. C'est juste que c'était difficile. Donc, c'était important de prendre le temps. Et parfois, c'était pas évident pour moi non plus de m'adresser à ma mère, non pas en tant que fille, mais en tant que réalisatrice et en tant que femme. C'était difficile de m'adresser à elle d'égal à égal. Donc, c'était parfois aussi difficile pour moi et pas que pour elle.
Ouais, parce que du coup, vous deviez la diriger en quelque sorte. Et en même temps, c'est compliqué. Vous êtes sa fille. En même temps, vous étiez la réalisatrice. Donc.
Oui, et puis en même temps, c'est aussi des histoires qui me touchent. Donc forcément, il y avait des moments où c'était pas évident, mais j'essayais de garder un équilibre entre ma position de fille dans le film, ma position de réalisatrice derrière la caméra, et aussi ma position de femme de manière générale dans ce que j'essaye d'explorer dans ce film qui parle de la place des femmes dans une histoire collective.
On va continuer de parler de votre film Lina Swalem, il sort mercredi, Bye Bye Tibériade, un film, on l'a compris, très personnel. On va continuer d'en parler juste après la pause. On écoutera aussi la bande-annonce du film, ce qui nous permettra de se donner une idée de l'ambiance sonore du film, parce qu'on va en reparler aussi, mais c'est l'ambiance de ce film est prenante et importante, joue beaucoup dans ce film. Et vous nous avez aussi ramené un souvenir de tournage qu'on va mettre en ligne sur la page Facebook de Studio B, et on en reparlera juste après la pause. Voilà, on a un programme bien chargé, on est ensemble jusqu'à midi sur Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM. FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda.
Merci d'être avec nous comme chaque dimanche dans Studio B pour ce magazine ciné de Beurre FM. On met à l'honneur les films qu'on a aimés et le film qu'on a aimé cette semaine, c'est le film Bye Bye Tibériade. Il sort ce mercredi en salle. C'est un documentaire de Lina Swalem avec Ilham Abbas notamment au casting. On retrouve Lina Swalem qui est notre invitée jusqu'à midi sur Beurre FM après avoir écouté la bande-annonce du film.
On a que le Bahar, on a que le Lebanon, on a que Syria, on a que l'Ordon. واحنا هيانا بالنص. لينا اول مره اخذتك على دير حنا، شايفه هاي انتي صغيره مع ست وام علي، وهاي انا وهاي امي.
Et moi je ressemble à qui du coup?
À personne.
Et là c'est nous quatre. Voilà. Des quatre générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé. » Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée.
Qu'est-ce que j'en sais, Alina, parce que je suis partie.
Vous parlez de quatre générations de femmes palestiniennes dont vous faites partie. Est-ce qu'au-delà du docu qui retrace la vie de votre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, c'est aussi et surtout un docu qui montre le pouvoir des femmes?
Bah, je pense que ça montre la force des femmes. Mais j'ai envie de dire aussi des hommes. C'est-à-dire que ça se concentre sur les femmes parce que dans ma famille palestinienne, les femmes sont plus nombreuses. Ma mère, elle est dans une famille de 10 enfants où il y a 8 sœurs et 2 garçons. Donc forcément, moi aussi, en tant que femme, j'ai beaucoup reçu des femmes, puisque j'étais très entourée de mes 7 tantes, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Et j'ai eu l'impression que dans ma famille, c'est vraiment les femmes qui étaient les gardiennes de ce que j'appelle le temple de la mémoire, qui sont celles qui ont réussi à maintenir leur histoire en vie. Leur mémoire aussi en vie et à transmettre à leurs enfants malgré l'exil, malgré la dépossession, malgré les déplacements, malgré la guerre. Mais en même temps, les hommes sont aussi présents parce qu'ils ont représenté, par ce qu'ils ont pu aussi apporter aux femmes. Et je pense notamment à mon père qui a filmé toutes ces images d'archives dans les années 90 dans le village de ma mère, palestinien. Et qui, du coup, me permet d'exister dans cette histoire en image et qui m'offre un héritage visuel très important. Donc, mais c'est sûr que moi, en tant que femme, j'ai hérité directement de cette force, de cette combativité de ma famille.
Ouais. Justement, ouais, vous parlez de force. Et on ressent vraiment une force de caractère et en même temps une douceur poétique et en même temps un lien familial indéfectible entre chacune de vous. Est-ce que ce docu vous a rapproché ou est-ce que ça a toujours été comme ça ou...
Alors moi, je me suis toujours sentie très très proche de ma famille maternelle. Ma mère et ses sœurs sont très proches. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance et j'ai grandi en voyant régulièrement tous mes cousins et mes tantes qui m'ont toujours transmis énormément d'amour et un imaginaire très 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 riche, plein d'amour, de complicité, de rire, de sagesse, de force. Donc pour moi, c'est assez naturel.
Alors justement, la première question tout à l'heure que vous vouliez qu'on vous pose, c'était comment va votre grand-mère Aïcha?
Bah justement, je voulais parler de ma grand-mère Aïcha que j'avais filmée dans leur Algérie, qui va bien, puisque bientôt je vais aussi présenter Bye Bye Tibériade à Thiers, qui est la ville où mes grands-parents algériens ont atterri quand ils ont immigré d'Algérie en France. Et donc j'ai hâte de partager le film à Thiers où j'ai tourné mon premier film, avec toute la communauté tiernoise et les Algériens de Thiers qui ont énormément soutenu aussi mon premier film et qui là ont très envie de voir le second. Et je pense à ma grand-mère Aïcha parce que j'avais passé beaucoup de temps sur leur Algérie à faire le tour des projections en France avec elle. Et voilà, elle me manque.
La poésie, c'est, je trouve qu'elle a une grande place dans le documentaire, un peu comme dans le film palestinien Biraim de Camille Clavel. Est-ce que c'est un attrait à la Palestine, j'ai l'impression, la poésie, c'est culturel, non?
Oui, il y a beaucoup de poésie. Il y a un héritage de poésie très, très important en Palestine, notamment, évidemment, le poète très connu Mahmoud Darwish, qui a beaucoup écrit et transmis sa poésie au-delà même de la Palestine et du monde arabe, mais à l'international. Il y a aussi Edouard Saïd, qui a beaucoup écrit, et beaucoup d'autres. Beaucoup de poètes aussi qu'on découvre à Gaza en ce moment avec l'horreur de ce qui se passe. Mais on voit à quel point la poésie est très présente chez les Palestiniens. C'est une façon aussi de faire face au poids du réel qui est très lourd, de se permettre aussi de se détacher du tragique, du réel, de la dépossession, de la perte, de l'effacement.
De parler aussi, de communiquer, peut-être de montrer de cette manière-là ce qui se passe.
Oui, et puis aussi de affirmer son humanité, puisque les Palestiniens sont déshumanisés depuis des décennies et de manière encore plus violente aujourd'hui, mais en même temps c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et connu, et c'est une manière d'exister dans toute son humanité, puisqu'elle ne leur est pas accordée partout et naturellement.
Malgré toute la douleur qu'on peut ressentir en visionnant les images, il y a quand même de la joie, de l'humour. Qu'est-ce qui fait cette force de vivre, cette force de se battre chez les Palestiniens?
Je pense que c'est un peu la même chose que ce que je disais par rapport à la poésie. C'est-à-dire quand on a l'habitude d'être toujours représenté par des stigmates, et à travers la perception que les autres ont de nous, qui est une perception déshumanisante, les gens ont tendance à oublier que les Palestiniens sont comme tout le monde et aussi ont tendance à oublier ou font exprès de leur dénier cette humanité, alors que c'est des gens pleins de vie, et finalement les rires c'est la vie, la joie c'est la vie, et c'est de l'ordre du miracle qu'ils puissent continuer à avoir cet humour, cet amour, cette tolérance et ces valeurs familiales et de pardon et d'éducation, et cet attrait à la poésie, à la littérature, quand on sait tout ce qu'ils ont perdu et à quel point ils ont été dépossédés. Et finalement, on s'arrête sur les choses négatives qui émergent de cette réalité, alors que la majorité des Palestiniens, pour moi, sont héros et héroïnes, puisque c'est de l'ordre du miracle. Et là, je rebondis avec Faïza Ghem, par exemple, qui est une autrice franco-algérienne qui écrivait par rapport aux immigrés algériens arrivés en France et qui ont élevé leurs enfants, et notamment les mères. Elle disait, c'est de l'ordre du miracle que ces mères soient arrivées à transmettre des valeurs positives à leurs enfants après tout ce qu'elles ont vécu et qu'elles n'ont jamais transmis de haine, justement. Et je pense que c'est exactement la même chose par rapport aux Palestiniens. Moi, j'ai reçu de ma famille palestinienne que des valeurs extrêmement positives dont je suis extrêmement fière. Une force, une culture, une tradition, un amour pour la poésie, la danse, la famille, des valeurs de
la danse. Et... c'est vrai. Vous avez de très belles danses en Palestine.
Ouais.
Vous parlez de poésie, de musique. J'ai envie de relier ça à la musique. Il y a un côté un peu poétique dans votre film, un côté doux qui est beaucoup amené par la musique. On l'a un peu entendu dans la bande-annonce qu'on a diffusée il y a quelques minutes. Comment vous l'avez choisi, la musique?
Alors, la musique a été composée par un musicien franco-tunisien qui s'appelle Amin Bouafa, qui avait d'ailleurs gagné un César meilleure musique pour le film Timbuktu d'Abderrahmane Sissako il y a quelques années. Et c'est un musicien très très talentueux et très sensible qui a su mettre en musique mes intentions en tant que réalisatrice dans le film et ma voix, entre guillemets. Et on a beaucoup, on a passé du temps ensemble pour trouver cette musique-là qui allait accompagner l'histoire de ces femmes, qui est une musique pour moi à la fois très poétique mais aussi très fragile par des sons de flûte qui expriment un petit peu le fil fragile de ces parcours-là. Et en même temps, c'est une musique qui emporte énormément, qui est pleine d'émotions, puisque c'est la réalité de leur parcours, cette complexité d'arriver à mener sa vie et ses aspirations personnelles dans une histoire collective très lourde et tragique qui impacte sur les relations intimes, justement.
Et là, ça amène de la douceur, beaucoup, cette musique. Ça berce, oui, ça donne une ambiance.
Oui, ça correspond au ton du film, c'est-à-dire que ma famille, dans ma famille, il n'y a pas de confrontation on a des relations qui sont de l'ordre d'une douceur qui parfois peut être frontale, mais voilà, c'est pour correspondre aussi à la réalité des émotions des personnages et du ton du film.
Paul, lors du tournage, quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer pour le film ?
Pour moi, les obstacles étaient plutôt émotionnels. C'était pas facile pour moi de tout le temps porter le film. J'avais toujours une peur qui existait de ne pas pouvoir raconter cette histoire, de ne pas pouvoir la transmettre, puisque l'histoire palestinienne officiellement n'est pas reconnue et souvent niée. Et j'avais aussi peur de ne pas réussir à capturer la mémoire que je voulais capturer, peur de ne pas réussir à aller au bout du fait aussi de la difficulté des histoires qui sont racontées. Donc j'ai été habitée par une peur de la perte, une peur de s'exposer avec ce film. Et en même temps, j'avais toujours l'objectif de transmettre la mémoire des femmes de ma famille pour leur redonner une place dans l'histoire, une place dans le monde, pour les rendre immortelles. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de tenir. Et souvent, je me disais, mais les challenges auxquels je fais face, les obstacles auxquels je fais face, mes propres peurs, c'est rien par rapport à ce que toutes les femmes de ma famille ont vécu et ont su dépasser. Et c'est ce qui me donnait la force de continuer.
Lina Solem, vous êtes notre invitée jusqu'à midi sur Beurre FM dans Studio B.
Studio B, l'actu ciné.
Mais Studio B, c'est aussi l'actu ciné de la semaine. Et on commence l'actu ciné par le box-office. D'ailleurs, il y avait assez peu de monde au cinéma la semaine dernière. 2,8 millions de billets vendus au global sur une semaine. C'est le plus faible score en 10 ans pour la 6e semaine de l'année. Sur le podium, on trouve 3 sorties de la semaine. Le film Cocorico en première place avec 580 000 entrées, suivi par le film d'aventure Le Dernier Jaguar et la comédie de Quentin Dupieux Dali avec respectivement 220 et 210 000 spectateurs. Et on aime vous donner des nouvelles des films dont on vous a parlé. J'avoue qu'on préférait des meilleures nouvelles puisque c'était un petit échec pour le film Ma part de Gaulois, film inspiré du livre de Majid Cherfi, choisi par seulement 7200 spectateurs en 2 semaines. Il est encore dans certaines salles. On vous invite vraiment à aller le voir. C'est un beau film. Voilà, ce film Ma part de Gaulois, si vous voulez retrouver, puisqu'on en avait parlé, on avait consacré une émission complète au film, vous retrouvez le podcast sur les plateformes, sur toutes les plateformes et notamment sur l'application Beurre FM et sur beurrefm.net. D'autres news, les news que nous a sélectionné Linda avec la série Ourika sélectionnée en compétition française au festival Sérimania.
Réalisée par Marcella Saïd et Julien Despo et produite par Eli Yaffa. Tu sais qui c'est Eli Yaffa?
Mais tu vas me le rappeler?
Mais c'est Booba, voyons.
Voilà.
Donc la série Ourika devrait sortir prochainement sur Prime Video. En attendant, la série participera à l'un des concours les plus réputés au monde du 15 février. Donc ça a déjà commencé au 2 mars 2024 avec pour concurrent Joe Star dans la série Machine. Ça risque pas mal de clasher entre les deux artistes pour la première place.
On essaiera de les avoir en studio, mais peut-être pas en même temps du
ouais,
coup.
Ouais, non, on va éviter. Ou alors on peut mettre un ring ou pied au milieu.
Allez, on parle de cinéma, mais on parle aussi du Sénat. Le Sénat qui assouplit l'encadrement des cartes illimitées.
Le texte qui a été envoyé à l'Assemblée aborde le régime des offres promotionnelles, l'accès aux œuvres dans les territoires ou encore la lutte contre le piratage, mais aussi contre la concurrence comme Netflix ou Amazon Prime. De plus, le Sénat a voté un amendement prévoyant le retrait de l'aide du CNC à des producteurs n'ayant pas respecté leur obligation de prévention. Cet amendement survient après toutes les plaintes de viol qui éclaboussent en ce moment le monde du cinéma.
Et l'Académie des Oscars annonce un tout nouveau prix.
Et oui, c'est la première depuis 2001. Cette nouvelle catégorie, c'est celle du meilleur casting. Elle entrera donc en jeu lors de la 98e cérémonie pour les films sortis en 2025.
Ouais, c'est donc l'an prochain que ça rentrera en ligne de compte. Voilà pour les news. On va retrouver Lina Swalem en duplex depuis Toulouse. Elle nous parle du film Bye Bye Tibériade. Son film, avec notamment sa mère Ilham Abbas, film documentaire dont on vous parle jusqu'à midi dans Studio B sur Beurre FM. Elle nous a ramené un souvenir du tournage. On va le mettre en ligne maintenant sur la page Facebook de Studio B. Vous pouvez aller le voir maintenant, le temps de la pause, et on en reparle juste après avec elle. Restez avec nous.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda.
Le magazine ciné de Beurre FM qui parle ce dimanche de Bye Bye Tibériade, documentaire de Lina Swalem que vous pouvez retrouver en salle dès mercredi.
Studio B, la revue de presse.
Lors de la revue de presse des critiques qui sont parues sur votre film Lina Swalem. Alors d'habitude j'essaie toujours de nuancer, de qu'on soit pas complètement chez Michel Drucker et qu'il y ait un peu du positif et un peu du négatif aussi. Et ben là j'ai pas trouvé de quoi nuancer. Vous avez que des critiques positives sur votre film, donc tant mieux déjà. Notamment celle de Bertrand Mathieu sur citizenpoulpe.com qui écrit: sur le plan formel, Lina Swalem confirme ici sa capacité à saisir des atmosphères, des sensations et des émotions à travers son travail sur le rythme et les cadrages. Il y a un travail fort là-dessus. C'est ce qu'on a abordé un peu au travers de la musique, mais c'est pas que sur la musique.
Bah ça c'est aussi dû à un travail collectif, puisque il y a des choses que j'ai filmées moi-même, mais j'avais aussi une chef opératrice, une caméra-woman qui est aussi franco-tunisienne, qui s'appelle Frida Marzouk.
Mais que de Tunisiens.
Voilà.
Il y a des gens de mon pays, c'est pour ça je suis contente.
Il y a beaucoup de très bons. Personnes du cinéma qui sont originaires de Tunisie. Il y a une très belle industrie cinématographique en Tunisie aussi. Et donc, à travers Frida, on a vraiment pu avoir des images qui ont capté des choses très sensibles et très belles. Et dans l'écriture, j'ai travaillé avec ma co-scénariste Nadine Naous et avec Ladis Joujou, la monteuse du film, qui avait aussi monté mon premier film, Leur Algérie, qui collabore à l'écriture aussi en tant que monteuse, puisque être monteur, c'est aussi un travail d'écriture. Et donc, on a travaillé toutes les trois pour pouvoir arriver à quelque chose de sensible, justement. Donc, c'est un travail collectif. Et je suis très chanceuse d'avoir été entourée, encore une fois, par ces femmes. Et il y a aussi un homme qui m'a aidée, qui est Karim Katan, qui est un auteur palestinien francophone qui a écrit Le Palais des Deux Collines, qui est un très beau roman et qui m'a aidé aussi à apporter un peu de poésie dans certains de mes textes et ma voix dans le film.
Ouais, et c'est important de le préciser parce que des fois on a l'impression qu'un documentaire ça va juste être un reportage simple, mais là c'est vraiment un documentaire de cinéma avec des belles images au-delà du fond qui est important, mais la forme est très belle aussi. François-Xavier Thuot sur le site Le Bleu du Miroir écrit: leur histoire c'est celle du peuple palestinien dont le tragique destin est compté en filigrane. Pourtant Bye Bye Tibériade est moins un film de colère que de lambeaux que Lina Swalem entreprend de rapiécer pour redonner forme à la mémoire familiale.
Bah c'est très beau, j'avais pas lu, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le film c'est une manière de, enfin c'est presque reconstruire un puzzle quand on est face à une histoire au-delà de en filigrane, une histoire qui est vraiment silencée, à une mémoire qui est dispersée, à une histoire de famille dont la famille est éclatée. Des membres de la famille qu'on ne peut pas avoir, des frontières qu'on ne peut pas dépasser. Du coup, à travers le film, j'ai essayé de recoller les morceaux du puzzle pour construire une sorte de territoire imaginaire dans lequel toutes les membres de ma famille, toutes les femmes de ma famille pouvaient exister ensemble dans un même espace-temps qui est celui du film, qui est presque une utopie puisque dans la réalité, elles n'ont pas forcément pu exister et vivre ensemble puisqu'elles étaient séparées par des frontières pour certaines. Et en plus, elles ont été expulsées de leur ville natale qui est Tibériade. Et là, je les rattache à la mémoire de Tibériade, puisque même si elles n'appartiennent plus physiquement au lieu, leur mémoire restera toujours ancrée dans ce lieu. Et c'est ce que je voulais leur rendre à travers le film aussi.
Et puis enfin, sur le site c'estquoilecinema.fr, on écrit: le troisième défi potentiel de ce genre de documentaire intime serait qu'il se transforme en une représentation centrée sur le jeu. Pourtant, Bye Bye Tibériade réussit parfaitement à éviter cet écueil, chaque instance du jeu étant orientée vers une histoire collective, un nous. C'est un écueil que vous avez voulu éviter? Pas faire juste votre histoire, mais une histoire plus collective?
En fait, c'était même pas que c'était un écueil que je voulais éviter, c'est-à-dire que c'était primordial pour moi de toujours lier l'histoire intime et l'histoire collective qui, pour moi, sont imbriquées dans nos histoires. C'est-à-dire que c'était montrer à la fois comment l'histoire collective, le contexte historique et politique avait affecté les parcours individuels et les relations les plus intimes, mais aussi laisser exister les parcours individuels, les émotions de chacune des femmes, par exemple, dans cette histoire collective. Donc, c'était faire coexister ensemble ces deux pans et de manière générale, c'est cette nécessité de redonner de la complexité à nos histoires pour faire face aux représentations stigmatisantes, en général, des femmes arabes, des minorités, des Arabes en France aussi, surtout. Voilà.
Allez, on clôt là cette revue de presse, mais c'est l'heure de vous parler du souvenir que vous nous avez ramené. On vous a demandé de ramener un souvenir du tournage. C'est une photo que vous avez choisie, une belle photo qui illustre bien le ce qu'on disait il y a quelques instants, les belles images qui sont montrées dans ce film.
Elle est canon, alors, la photo. On l'a regardée avec Christophe avant que avant de débuter. Ouais. C'est vrai qu'elle est.
On vous voit, c'est durant le tournage. On voit un beau coucher de soleil. Pourquoi vous avez choisi cette photo? Une photo que je précise, on vient de mettre sur la page Facebook de Studio B, comme ça si vous voulez voir, vous qui nous écoutez, de quoi on parle en ce moment, vous vous connectez sur la page Facebook de Studio B. Donc pourquoi vous avez choisi cette photo, Lina Solem?
Alors cette photo, c'est un moment du tournage, c'est un souvenir du tournage, et pour moi c'était émouvant de me reconnecter à ces souvenirs, puisque une fois que le film est terminé, on oublie aussi tout ce qu'on a vécu pendant le tournage, puisqu'on est face au public et on raconte plutôt l'histoire du film plutôt que le background du tournage. Justement, on voit la chef opératrice Frida Marzouk qui a passé du temps avec moi en Galilée dans ma famille maternelle, et c'était aussi très beau de partager ces moments ensemble, d'amener quelqu'un dans l'intimité de cette famille. Et en même temps, on se trouve en haut des montagnes de Galilée, dans un endroit dans lequel ma mère m'a emmenée, elle qui adore ces montagnes, moi qui me suis toujours demandé ce que ma mère avait emporté avec elle des montagnes de Galilée jusqu'en France, et ce qu'elle m'avait transmis de ces paysages-là, de ce territoire-là, de cette terre. Et voilà, c'est des paysages qui m'enchantent, et c'est les paysages de mon enfance qui, en fait, ont forgé mon imaginaire et mon envie de rester connectée aussi à cet endroit. Et en même temps, les montagnes représentent aussi l'enfermement, puisqu'on pense toujours à ce qu'il y a au-delà des montagnes. Et comme le dit ma mère dans le film à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on regarde ces montagnes, on pense à nos familles qui sont de l'autre côté de ces montagnes, en Syrie, au Liban, en Jordanie, les Palestiniens qui sont dans les camps de réfugiés, qui ne peuvent pas revenir depuis 48. Et donc c'est à la fois un endroit qui fait chaud au cœur, et aussi qui rappelle les ruptures et la douleur de cette histoire collective.
Justement, vous avez une... Dans le docu, on voit votre tante en Syrie, votre mère qui lui rend visite. Depuis, vous y êtes allée? Vous avez contact avec elle?
Avec la grande-tante?
Ouais.
Elle est décédée, malheureusement.
Je suis désolée. Mauvaise question.
Non, c'est pas grave. Mais elle est décédée il y a pas mal de temps.
D'accord. Et quand vous êtes allée en Palestine pour tourner certaines images, est-ce que vous avez eu des difficultés sur place au niveau des autorisations, au niveau de... pour filmer
Non, parce que j'ai filmé beaucoup dans les espaces familiaux et intimes, donc c'était assez... c'était plutôt fluide.
Et du coup, vous nous avez expliqué que vous avez diffusé ce docu dans beaucoup de pays, aux États-Unis, au Maroc. Ça va continuer. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez le diffuser dans des territoires palestiniens?
J'aimerais beaucoup. Le film devait sortir... il devait faire sa première projection à Ramallah, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Palestine Cinema Days. En octobre, on devait, fin octobre, se retrouver avec toute la famille pour vivre cette première projection ensemble. Il était en compétition dans le festival et on avait prévu de le projeter dans plusieurs villes. Malheureusement, pour l'instant,
avec tout ce qui se passe,
la situation, c'est très difficile. Donc, j'espère que... Enfin, pour moi, c'est pas la priorité tout de suite, puisque la situation est tellement dramatique que je pense d'abord, évidemment, à la nécessité d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible et protéger toutes les vies qui sont en danger.
Justement, on ne peut pas ne pas parler de l'actualité, forcément. Votre film n'en parle pas, puisqu'il a été tourné en amont. Mais comment est-ce qu'il résonne aujourd'hui avec l'actualité?
De toute façon, le film traite aussi d'une histoire de déplacement, puisque la source du film, c'est... De la transmission, c'est mon arrière-grand-mère qui a été expulsée de Tibériade en 48. Donc en 48, il y a 700 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leur ville et village natal et qui sont devenus réfugiés. 90% des villages palestiniens ont été détruits et effacés, une partie des archives aussi perdues. Donc quand on voit les images de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, ça renvoie à cette histoire de perte, d'effacement. De, de, de mort qui continue. Et c'est terrible, c'est tragique, puisque en fait, on est en deuil. Moi, je sais que pour ma mère, elle revit un trauma de guerre qu'elle a déjà traversé en étant plus jeune. Et en fait, à travers le film, je mets en avant les histoires personnelles des femmes de ma famille. Je parle de l'enfance de ma mère et de ses rêves d'enfant quand elle était au village. Et en fait, je pense à tous ces enfants à Gaza qui ont été tués et dont on ne connaîtra jamais les visages, les aspirations, les rêves, peut-être les œuvres aussi, s'ils avaient des aspirations artistiques, le travail ou ce qu'ils auraient apporté au monde. Et il est important de leur redonner justement des visages, ce ne sont pas des nombres, et de ne pas juste les connaître dans la mort, mais aussi de valoriser les vies qu'ils ont menées et de protéger toutes celles et ceux qui sont en train de lutter pour survivre.
C'est en quelque sorte, votre reportage est en même temps en quelque sorte un devoir de mémoire.
Oui, tout à fait.
Et quelle était la réaction de votre mère du coup quand elle a vu le reportage, le docu?
Pour ma mère, c'était un moment, enfin pour ma mère et moi, quand on l'a vu ensemble la première fois, c'était assez stressant, j'avais peur, mais elle a super bien réagi, elle était très fière. Ma mère m'a dit qu'elle avait toujours rêvé en fait de raconter l'histoire de sa mère et de sa grand-mère, donc à travers le film et à travers ce que j'ai fait, elle réalisait aussi un autre rêve, et en même temps elle voyait à quel point elle faisait partie de cette histoire et d'un tout, donc c'était très émouvant. Et elle accompagne beaucoup le film avec moi, d'ailleurs, depuis qu'il a fait sa première projection en début septembre au Festival de Venise.
Ça s'appelle Bye Bye Tibériade. C'est en salle à partir de mercredi. Lina Soulaine, merci beaucoup d'être venue avec nous, en tout cas en duplex depuis Toulouse, pour nous parler de votre film Bye Bye Tibériade qui sort donc ce mercredi dans les salles.
N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à soutenir le film, n'hésitez pas à soutenir la cause.
Il faut absolument aller en salle dès le 21 pour donner une chance au film de rester en salle et d'être vu un maximum. C'est possible.
Eh ben, évidemment. En tout cas, on vous invite tous à le faire. Merci beaucoup, Lina Soualem. On se quitte là. Si vous voulez retrouver si vous n'avez pas eu l'émission en entier, vous pouvez retrouver le début en podcast sur la plateforme, sur toutes les plateformes, sur l'application Beurre FM et sur beurrefm.net. On se retrouvera la semaine prochaine. On parlera du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, le festival de PCMMO, qui démarrera dans 10 jours maintenant. Ben voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
Ah, ça m'avait pas manqué.
Au revoir.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.